du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce jour de Pâques de Noël, l'Église célèbre donc la circoncision de notre Seigneur. Selon le commandement donné par Dieu à Abraham, les enfants mâles
devaient être circoncis 8 jours après leur naissance. La circoncision était une petite opération douloureuse réalisée par le chef de famille et qui consistait à enlever une membrane de l'organe de la génération. Elle était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et à travers lui à tous ses descendants. Elle était aussi le signe de la foi d'Abraham et de son peuple dans les promesses messianiques. Saint Thomas d'Aquin dit que la circoncision était la profession de foi des anciens, et ils entraient par elle au nombre des fidèles, c'est-à-dire de ceux qui croient en la révélation divine. Mais la circoncision n'était pas seulement le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple et le signe de la foi de ce peuple dans le Messie à venir, la circoncision était aussi le signe de la grâce. C'était un sacrement, mais un sacrement de l'Ancien Testament, différent de nos sacrements actuels, dans la mesure où ils n'étaient pas efficaces par eux-mêmes. Ils n'étaient efficaces que dans la mesure de la foi de ceux qui les recevaient. Et pour la circoncision, c'était dans la mesure de la foi des parents qui présentaient l'enfant. Nous avons dit que la circoncision ne concernait que les enfants mâles, les personnes de sexe féminin, entraient dans le peuple élu, était délivré du péché originel et recevait la grâce sanctifiante en pratiquant les actes ordinaires de la religion juive de l'époque. Bien sûr, on peut se demander pourquoi notre Seigneur, qui n'avait pas contracté le péché originel, puisqu'il avait été conçu du Saint-Esprit, n'avait pas été par une génération humaine, c'est la génération humaine qui transmet ce péché qui nous vient d'Adam. Notre Seigneur a été conçu du Saint-Esprit, il n'avait donc pas le péché originel. Ensuite, son âme avait déjà la grâce sanctifiante, en plénitude, parfaite, depuis sa conception. Alors, pourquoi voulut-il se soumettre à ce rite de la circoncision? Saint Thomas d'Aquin en donne plusieurs raisons, nous en retiendrons 3. Tout d'abord, notre Seigneur voulut montrer la réalité de sa chair humaine, et qu'il était vraiment homme, contre ceux qui mettraient cela en question, comme les manichéens, par exemple, que combattra notre Père Saint-Dominique, et qui soutenaient que notre Seigneur n'avait qu'une apparence de corps. Alors, toutes les souffrances sur la croix, tout ça, ce n'est rien. Ça détruit tout le dogme de notre rachat. Aujourd'hui, il y a même des journalistes en vogue, des athées notoires, qui essayent de faire du bruit en disant que la personne de notre Seigneur n'a jamais existé, qu'elle n'est qu'un mythe. On appelle ces gens des mythistes. Mais leurs arguments sombrent dans le ridicule. Nous en avons profité pour faire une petite plaquette donnant les documents historiques sur la vie du Christ. Tout ce bruit montre d'ailleurs que la personne de notre Seigneur dérange. Et notre Seigneur sera signe de contradiction jusqu'à la fin des temps. Non, verbum caro factum est, dit saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il est vrai Dieu, verbum, il est vrai homme, caro, il est chair. En 451, le concile de Chalcédoine affirmera qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, les deux natures divines et humaines sont unies à la seconde personne divine, dit le concile, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Le Verbe de Dieu a donc pris une chair humaine, une chair capable de souffrir et de mourir, afin de pouvoir s'offrir en sacrifice pour notre salut. Et saint Thomas d'Aquin dit que ce fut le motif principal de sa venue sur terre. Et ce fut d'ailleurs la première pensée de notre Seigneur dans le sein de Notre-Dame à l'instant de son incarnation. Vous connaissez cette parole que nous révèle saint Paul, parole de notre Seigneur, du Verbe, à son Père. « Vous n'avez pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais vous m'avez formé un corps. Les holocaustes et les sacrifices pour le péché ne vous ont pas plu. Alors j'ai dit, voici, je viens, selon qu'il est écrit de moi, pour faire, ô Dieu, votre volonté. Et en ce jour de la circoncision, eh bien, notre Seigneur commence déjà à verser son sang rédempteur. Il est impatient. C'est pour cela qu'il est venu. Ce n'est d'ailleurs pas tellement l'humanité de notre Seigneur qui est niée aujourd'hui, sauf par quelques farfelus, c'est plutôt sa divinité. Et c'est là plutôt le grand drame de notre époque. Et là, si la foi en la divinité de notre Seigneur est en train de disparaître, c'est parce que les hommes d'église actuels ne la prêchent quasiment plus pour ne pas contrarier les fausses religions. La divinité de notre Seigneur, on peut dire, est sacrifiée sur l'autel de l'œcuménisme au profit de son humanité. Et c'est extrêmement grave. Déjà au début du XXe siècle, le père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup tirait le signal d'alarme dans son catéchisme de la famille chrétienne. L'immense péril, écrivait-il, c'est celui-ci. Et attention, parce que cela guette de nombreux catholiques aujourd'hui, à cause malheureusement des défaillances de la hiérarchie actuelle. L'immense péril, c'est celui-ci, mettre en place la seule personne de notre Seigneur considérée davantage dans son humanité que dans sa divinité. Et glisser ainsi à côté de la foi pour se faire une autre religion qui, tout en étant un extrait du christianisme, pourrait en devenir une falsification. Voilà, dit-il, ce que j'ai appelé l'immense péril. L'immensité du péril consiste en ce que l'acte de foi n'étant plus exercé dans sa plénitude, il finit par n'être plus exercé du tout. La foi est remplacée par le sentiment ou l'imagination. L'espérance est remplacée par la présomption, tout le monde est sauvé. La charité est remplacée par une sorte de sensibilité. Avec cela, dit le père Emmanuel, on garde les pratiques extérieures de la religion, on prend même sa part dans une foule de bonnes œuvres. Mais en somme, on ne vit pas de la foi, condition nécessaire pourtant aux yeux de Dieu pour être juste, c'est-à-dire pour être sauvé. On ne mortifie pas ses passions, on ne renonce pas à soi-même, comme notre Seigneur l'enseigne, affirmant que c'est chose nécessaire pour être son disciple. Et finalement, les péchés restent. Voilà, avertissement du père Emmanuel. Mais passons au second motif pour lequel notre Seigneur a voulu être circoncis, outre de montrer la réalité de sa chair. En se faisant circoncire le huitième jour, il montrait qu'il était de la race d'Abraham, et donc qu'il obéissait à cette loi de la circoncision que Dieu avait fixée pour Abraham et ses descendants. Notre Seigneur se donnait à nous en exemple d'obéissance aux lois de Dieu. Enfin, en se faisant circoncire et en accomplissant les rites liturgiques de l'Ancien Testament, avec une perfection infinie, puisqu'il est Dieu, notre Seigneur rendait gloire à son Père Céleste qui avait fixé tous ses rites. C'était une manière d'honorer son Père Céleste. Et en même temps, il prenait sur ses épaules le lourd fardeau de toutes ses prescriptions minutieuses afin de nous en décharger. Il n'y aura plus cela dans la loi nouvelle, ce sera les lois des béatitudes. Toute cette liturgie de l'Ancien Testament était figurative, c'est-à-dire qu'elle annonçait à l'avance le culte parfait que notre Seigneur offrirait un jour à son Père par son sacrifice sur la croix. Et dès lors que notre Seigneur se sera offert sur le calvaire pour la réparation de nos péchés, toute cette liturgie de l'Ancien Testament n'aura plus lieu d'être. Les cérémonies de la loi ancienne signifiaient le Christ comme devant souffrir, dit saint Thomas d'Aquin, tandis que nos sacrements le montrent comme ayant souffert. Donc la circoncision de l'Ancien Testament a été abolie. Elle a été remplacée par le baptême. Le baptême qui produit une circoncision, mais une circoncision spirituelle. C'est ce qu'explique très clairement saint Paul aux Colossiens. En Jésus-Christ, dit-il, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui consiste dans le dépouillement du corps charnel. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous avez été aussi ressuscité par la foi en sa résurrection. Lorsque vous étiez dans la mort de vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, Jésus-Christ vous a fait revivre avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. C'est-à-dire, eh bien, que la grâce du baptême, si du moins nous n'y résistons pas, si nous restons fidèles aux promesses de notre baptême, cette grâce est pour notre âme une grâce de mort au péché et de naissance à une vie nouvelle, la vie de la grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faut pas se méprendre sur cette vie nouvelle. Saint Thomas d'Aquin fait deux remarques importantes. Tout d'abord, le baptême nous a greffés sur le Christ. Le baptême nous a incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême a fait de nous les membres de notre Seigneur. Nous ne sommes maintenant plus qu'un avec lui. Lui est dans la gloire, nous sommes encore sur terre. Eh bien, pour le rejoindre dans la gloire, il nous faut passer par le chemin qu'il a emprunté pour s'y rendre. Et ce chemin, c'est la croix. Notre Seigneur le dit clairement, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Eh bien, c'est la croix des sacrifices de nos devoirs quotidiens, de tous les renoncements qu'il demande, comme Notre-Dame de Fatima l'a rappelé avec insistance à notre époque. Et puis, ce sont les croix purificatrices et rédemptrices des épreuves et des peines inévitables de cette vie. Nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ, dit saint Paul, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Avez-vous remarqué, pendant la cérémonie du baptême, combien le prêtre multiplie les signes de croix sur l'enfant? C'est clair. Au baptême aussi, le prêtre marque l'enfant avec l'huile sainte sur la poitrine et entre les deux épaules. À l'époque où le baptême a été institué, les lutteurs dans le stade s'enduisaient d'huile pour combattre. Saint Paul compare les chrétiens aux athlètes du stade qui entrent en compétition pour obtenir une couronne. Et voilà la deuxième caractéristique de la vie nouvelle dans laquelle le baptême nous fait rentrer. Le chrétien est celui qui prend sa croix à la suite de notre Seigneur, et le chrétien est aussi un combattant. Comme l'écrit saint Thomas d'Aquin, c'est après avoir lutté contre la concupiscence et les autres épreuves de cette vie que l'homme doit recevoir la couronne du triomphe. Et en quoi consiste ce combat spirituel que nous devons mener jusqu'à notre dernier instant? Eh bien, spécialement, il consiste à retrancher dans notre vie tout ce qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est ce que signifiait l'ancienne circoncision en retranchant un morceau de chair. Maintenant, c'est plus un morceau de chair, c'est tout ce qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur qu'il faut retrancher. C'est là le combat spirituel de tous les jours, surtout avec toutes les tentations du monde actuel. Et on lit d'ailleurs, cela a été annoncé dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre du Deutéronome, « Dieu circoncira votre cœur ». Vous voyez, il ne parle même pas de la chair, il voit plus loin. « Dieu circoncira votre cœur et le cœur de vos enfants, afin que vous aimiez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, c'est-à-dire afin que vous viviez. » C'est là la vraie vie. Mais ce que l'ancienne circoncision signifiait, elle était incapable de le réaliser par elle-même. C'est le baptême qui réalise cela par lui-même. Parce que le baptême opère une transformation profonde de l'âme. Ce n'est pas seulement une entrée dans la communauté chrétienne, comme on entend parfois. Non, le baptême entraîne une transformation profonde de l'âme. Le baptême communique la grâce sanctifiante qui élève notre nature au-dessus de la nature humaine. Parce que la grâce sanctifiante est une participation de la nature divine. C'est l'échange admirable que chante aujourd'hui la liturgie. Le Verbe a pris notre nature humaine et en échange, il nous fait participer à sa nature divine. Voilà le grand mystère de Noël pour nous. Et avec la grâce arrive tout un organisme de vertus surnaturelles qui sont des capacités à faire le bien. Disons pas, la vie chrétienne est trop difficile, non? On est capable, avec la grâce et les vertus. Nous avons ces capacités qui nous viennent de Dieu. Et puis, bien sûr, des fois, il y a des difficultés, des épreuves qui sont au-dessus de nos forces. Alors, il y a les dons du Saint-Esprit qui permettent au bon Dieu de nous faire surmonter tout ce qui est au-dessus de nos forces. Alors, il faut prier le Saint-Esprit, comme nous avons fait tout à l'heure, pour l'invoquer pour toute l'année qui vient. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Dans la vie d'un chrétien, le baptême n'est qu'un début. Il est la porte des sacrements. Il nous rend capables de recevoir les autres sacrements, et spécialement la Sainte Eucharistie, vers laquelle convergent tous les autres sacrements.
La Sainte Eucharistie, c'est Jésus. C'est notre Seigneur Jésus-Christ venant à nous pour nous transformer en lui. Le baptême nous crève sur le Christ. L'Eucharistie nous fait vivre du Christ. Comme le dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et voilà toute la vie chrétienne qui peut se résumer dans ceci. La vie chrétienne consiste à continuer. Nous sommes devenus notre Christ. Nous allons maintenant continuer la vie de Jésus en imitant ses exemples et avec les grâces qu'il nous donne pour cela, parce qu'il ne nous commande pas l'impossible. Eh bien, c'est la grâce principale à demander en ce début d'année civile. Avez-vous remarqué, dans les rites romains, l'oraison de la messe de la circoncision est différente du rite dominicain. En cette fête qui est une fête de notre Seigneur, l'oraison du mystère romain est étonnamment centrée sur la Sainte Vierge. Je vous cite. Dieu qui par la féconde virginité de la bienheureuse Marie avait octroyé aux hommes les biens du salut éternel, faites-nous ressentir la puissance d'intercession de celle par qui nous avons pu recevoir l'auteur de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, en ce début d'année, faisons appel à la puissance d'intercession de Notre-Dame pour qu'elle nous aide à retrancher généreusement tout ce qui nous empêche d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur et ainsi nous permette de vivre la vraie vie que le bon Dieu est venu nous apporter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.